Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fais le point, votre émission qui décrypte l'actualité versus fighting. J'espère que vous allez bien. Moi, vous pouvez l'entendre avec mon nez qui est bien pris. Ben, je me suis pris le match-up de la maladie. Eh oui, hein, le pire match-up qui puisse arriver au Japon. Donc autant vous dire que ce matin, j'étais clairement en PLS car là, à l'heure où j'enregistre, c'est aux alentours des 16h si je dis pas de bêtises. Voilà, dernier jour, avant-dernier jour, parce que moi je rentre dimanche. Je peux vous dire que j'ai bien le seum. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que bon bah voilà, hein, vous avez réussi plus ou moins à suivre ce qui se passait sur les internets. Mais dans le cas échéant, au cas où, voilà, justement, c'est un peu compliqué. Et ben voilà, regardez, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Alors, le programme de la semaine, ben, on aura l'agenda, on aura un petit point mercato vite teuf, on aura voilà, un petit peu de jeu indé, on aura du mode, du Tekken, du Street Fighter, Dragon Ball Fighters, mais bien sûr. Du Fatal Fury, du 2XKO, et bien évidemment du Hunter Hunter. Oui, je prononce Hunter Hunter, c'est pas moi qui le dis, vous verrez ça tout à l'heure. Allez, sans plus tarder, bah écoutez, let's go pour l'agenda de la semaine. Let's go. Alors, qu'avons-nous en agenda cette semaine? Eh bien, tout bêtement, on va pas passer par quatre chemins. Ce week-end, c'est l'Evo Japan et l'Evo Japan a enfin partagé son agenda, son schedule, son programme, si je puis dire. Et on a la chance d'avoir beaucoup de talent dans la FGC. Et ben voilà, regardez, on a même la FGC hein, par le compte VR Fist. Et ben le programme avec les horaires pardon européennes. Voilà, donc à quoi s'attendre? Eh ben, regardez pour la première journée, on aura du Street Fighter 6, premier round à partir de 3h du matin, donc première journée de Street Fighter 6. Tekken 8, pareil, à partir de 3h du matin. Guilty Gear Strive et Granblue Fantasy versus Rising, idem. Et puis, eh ben, pour les aficionados de l'arcade, eh ben, Street Fighter 3 Third Strike, lui, commencera à 4h30. Voilà, c'est ça, je rêve pas. Oui, c'est 4h30. J'ai jamais su comprendre comment leur truc se passait, mais ouais, en haut, il y a 1h30. Donc, techniquement, effectivement, l'entre-deux, c'est et demi. Donc, à 4h30, Street Fighter 3 Third Strike. Je le rappelle, Third Strike, cette année, se passe non pas sur des bornes d'arcade, mais via des super guns. Donc, tout le monde.
Hop, 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 c'est ici le KX du futur. Bon, le KX du passé a dit un peu quelques bêtises. Street Fighter 3 Third Strike à l'Evo Japan va se dérouler sur arcade. C'est seulement à l'Evo Las Vegas que la compétition sur le jeu aura lieu sur Super Gun. Mais à l'Evo Japan, ben, ce seront les bornes de Matsuda, Monsieur Matsuda hein, lui-même, qui seront affrétées pour couvrir l'événement Street Fighter 3 Third Strike, je le rappelle, sur arcade. Pas sérieux, KX, hein, pas sérieux.
A la possibilité de jouer et aussi c'est une manière d'exclure personne et en parallèle et ben à la même heure donc 4h30 du matin on a KOF 15 hein, pour les trois premières ah ouais quand même le premier round hein, donc les poules deuxième salve de poules et ensuite les demi-finales donc on imagine que les sorties de poules c'est exactement le round 2 que l'on voit ici la petite colonne bleu clair et enfin, toujours dans cette première journée, on aura du Under Night In Burst 2 à partir de 3h du matin. Et la journée entière est consacrée à Under Night In Burst, donc jusqu'au final qui auront lieu à midi, heure locale. Voilà, et puis ensuite, on a la deuxième journée, hein, regardez ici, avec bah, toujours 3h du matin, le début des hostilités. Street Fighter 6 pour la deuxième vague et qui va aller jusqu'aux demi-finales. Tekken 8, lui, eh ben, deuxième et troisième vague de poule. Donc j'imagine que le troisième round, comme tout à l'heure, ce sera la sortie de poule. Et les demi-finales commenceront à 9h du matin, heure française. Quant à Guilty Gear Strive, donc la deuxième vague de poule, elle commencera à 4h30, suivie d'une sortie de poule, round 3, ça y est, on commence à avoir l'habitude. Et enfin, grosse pause et on reprend aux alentours des 10h30 pour les demi-finales de Guilty Gear Strive. Et puis ensuite, eh bien, 3h du matin également dans cette deuxième journée du Granblue Fantasy versus Rising pour la deuxième vague de poule, les sorties de poule, les demi-finales, petite pause. Et ensuite, les finales qui commenceront à 10h et qui techniquement vont durer 3h selon le programme, donc jusqu'à 13h. Et quant à Street Fighter 3 Third Strike, eh bien 3h du matin pour les demi-finales. Ensuite, une grande pause et les finales commenceront, elles, à 7h du mat. Et cette deuxième journée proposera également les finales de KOF 15 qui auront lieu à 3h30 jusqu'à, je regarde en live, 6h30. Voilà. Alors, qu'en est-il de la troisième journée de cette Evo Japan? Eh ben, regardez. Donc, alors, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans ce sens-là. C'est un peu chelou, mais ce qu'il faut dire, c'est que à 5 h du matin, c'est les finales Guilty Gear Strive. À 8 h du matin, les finales Tekken 8. Et à 11 h, les finales Street Fighter 6. Voilà. Donc, gros programme. On va pas se mentir. Hein, honnêtement, gros programme qui nous attend ce week-end. Alors. Il faut savoir qu'il y aura une délégation française au casting, au cast, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Et oui, parce que ben, MGG va retransmettre ça en direct avec Ken Bogard et toute sa clique. Donc, bon, ben, restez à l'affût hein, sur le compte Twitter de MGG ou de Ken Bogard pour avoir toutes les infos. Mais je sais que j'ai le lien en fin d'émission, donc je vous le rappellerai. Voilà, il n'y a pas de souci. Concernant l'Evo Japan, alors il faut savoir qu'il y a des petits trucs assez particuliers à savoir. Alors déjà, une mauvaise nouvelle, hein, on va pas se mentir, un truc qui va un peu casser le délire, un peu casser, voilà, un peu ternir la fête. Eh bien, Arslan H confirme qu'il n'y aura aucun Pakistanais à l'Evo Japan. C'est, ouais, oui. Bon, bah écoutez, nous, on attendait vraiment, ben voilà, on voulait vraiment voir. Comment la populace allait se débrouiller face aux Pakistanais, hein, meilleure région sur Tekken 8, et ben, cette année, pas de visa pour les joueurs. Ils resteront donc au chaud à la maison, malheureusement. Hein, alors, on va pas se mentir, hein, voilà. On voulait tous voir ce que ça aurait donné à hein, la communauté versus la meilleure région du globe. Mais tant pis. Donc après Big Bird hein, qui volontairement ne souhaite pas venir à l'Evo Japan hein, afin de se focus sur l'Esport World Cup.
Hop, 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 c'est encore KX du futur. Et devinez quoi? On vient tout juste d'apprendre que le top 6 de l'Evo Japan bah, va se qualifier pour l'eSport World Cup 2024. Donc Big Bird, qui avait décidé de ne pas venir parce que, vous voyez, on se focus sur l'eSport World Cup avec la DreamHack, eh bien, vient tout juste de louper le coche. Parce que ben, c'est ici le top 6 qui se qualifie hein, de l'Evo Japan pour l'eSport World Cup. Donc bon, bah. Une pensée à tous les joueurs qui disaient que l'Evo Japan, c'était pas du tout rentable. Mais bon, on se donne rendez-vous jeudi prochain parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup à dire là-dessus. Allez, c'est reparti.
Ben, malheureusement, ça c'est une histoire de visa. Pas de Pakistanais à l'Evo Japan. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans l'agenda? Ah oui, des trucs plutôt cool, hein. Regardez, le Bruxelles Challenge qui, voilà, balance le classement de ces jeux par inscription, mais spécifiquement les side events. Donc c'est Guilty Gear Xrd Rev2 qui prend la première place en side event, hein, en termes enfin, en nombre d'inscrits. On a Samurai Showdown en deuxième place. On a Ultra Street Fighter 4 en troisième. BlazBlue en quatrième. KOF 15. Ah oui, KOF 15, c'est un side games. En cinquième place. Super Smash Bros. En sixième place. Mortal Kombat en septième. Et Super Smash Bros. C'est lequel? C'est le Melee. En 8e place, voilà, donc les inscriptions sont toujours ouvertes hein, pour le Bruxelles Challenge qui va avoir lieu. Est-ce que j'ai gardé les dates moi de mon côté? Le Bruxelles Challenge, bah écoutez, non, j'ai pas les dates, mais c'est au mois de quoi? Hop, regardez, on va voir ça tout de suite, qu'on dise pas n'importe quoi, parce que les inscriptions sont toujours ouvertes. Regardez, il y a même le Start GG, et donc c'est du 10 au 12 mai, voilà, que je dise pas de bêtises, au moins vous avez l'information, la vraie. Pas d'embrouille. Ensuite, le temps pour moi de fermer mes onglets, on a aussi le mix-up qui a dévoilé, lui de son côté, pareil, le classement des inscriptions, enfin le classement des jeux par nombre d'inscrits, et c'est Tekken 8 hein, qui prend la première place, Street Fighter 6 en deuxième et Guilty Gear Strive en troisième. Après, pas de surprise, hein, et ce sont les jeux qui, voilà, qui sont les plus populaires de notre côté du globe. Et puis ensuite, eh bien, bonne surprise, hein, Granblue Fantasy Versus Rising en quatrième place et Melty Blood en cinquième, avec Under 19 Burst 2 en sixième place, qui talonne eh bien justement Melty Blood, et puis ensuite, eh bien c'est des jeux arcade avec Vampire Savior et Street 2X qui suivent, un petit Dragon Ball Fighters, ok, en neuvième place, et puis ensuite, bon bah, Sir Strike en dixième place, Guilty Gear Xrd Rev 2 en onzième, Mortal Kombat 1 en douzième, et Hokuto no Ken, la version arcade, en 13e place, car oui, Hokuto no Ken ben, est présent au mix-up, et ça, on en avait déjà parlé. Nous avons également l'annonce de par les organisateurs du mix-up qu'il y aura, donc au mix-up, qui a lieu du 13 et 14 juillet, deux tournois Tekken 8, un tournoi qui sert de Tekken World Tour, et ensuite un tournoi solo qui n'est pas World Tour. Donc voilà, les joueurs de Tekken sont franchement sont bien, sont sacrément bien. Donc voilà, voyage rentabilisé, j'ai envie de vous dire. Double cash price à choper. Donc bon, bah, GG aux organisateurs. Du mix-up, toutes les infos sur le compte Twitter, The Mix-Up Lyon, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour l'agenda? Eh bien, on a aussi Hit Confirm, l'asso marseillaise, hein, voilà, qui balance son prochain rendez-vous, qui sera le samedi 27 avril de 14h à 19h, avec un tarif inscription de 5 euros, et qui proposera eh bien, voilà, hein, les jeux, comme d'habitude, hein, les jeux tels qu'ils ont l'habitude de nous présenter, donc du street, du Tekken, etc., etc. Donc voilà, si vous êtes du côté de Marseille, sachez que Hit Confirm vous propose une session, un ranking le 27 avril de 14h à 19h au Delta Game, plan de campagne. Et oui, il faut également balancer le lieu, sinon on a un peu perdu. Et on termine cet agenda avec Welcome to Massilia, un autre ranking marseillais, qui lui, eh bien, est plutôt focus sur Tekken, si je raconte pas de bêtises. Et le prochain rendez-vous est calé au 19 mai. Voilà. Donc, sachez que si vous êtes également dans le coin à Marseille le 19 mai, du côté du 8 rue d'Hozier, eh ben vous avez un ranking, le quatrième ranking sur Tekken 8. Et on le rappelle, hein, le ranking qui va avoir lieu là, le plus proche en termes de timeline est un Tekken World Tour Dojo. Voilà, donc autant vous dire qu'il s'agit d'une asso qui est complètement dans le bise. Voilà pour eh bien, l'agenda. Et nous, eh ben maintenant, on va passer à l'actu versus fighting. Hein. Let's go. Et on commence eh bien, cette actu avec le point matos, et c'est plutôt intéressant. Un point matos, moi, qui m'a fait un peu tiquer, je ne vais pas vous mentir. Regardez, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que tu nous montres, KX? Eh ben, dans les faits, après Sanwa, Samdoxa, Ori ou encore eh bien, Gamefinger, c'est au tour de Tokido de se lancer dans l'aventure des boutons. C'est à travers sa dernière émission YouTube hein, qu'il a annoncé le One Frame, un nouveau bouton désigné pour les jeux de combat. Alors, quelle est donc la spécificité de ce bouton? Ah ben, il utilise les micro-switches de souris PC. Oui, la souris PC. Hein, voilà. Donc, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les boutons Sanwa sont un peu dépassés. Et désormais, la majorité des joueurs eh ben, utilisent des switches de type Cherry MX, les mêmes qu'on retrouve dans les claviers de gamer. Et là, Tokido a relevé le challenge de faire mieux. Et pour illustrer tout ça, ben, il nous a fait un petit tableau comparatif que voici, hein, comme on peut le voir ici en image. D'un côté, on a les mesures des Cherry MX Silver Low Profile. En gros, la course complète est à 3,2 mm contre 0,5 mm pour le One Frame. Et autre paramètre, 1 mm pour l'actionnement côté Cherry MX, donc c'est vraiment très réactif, contre 0,3 mm pour le One Frame. Alors effectivement, ce sont des chiffres qui font clairement rêver, mais pour avoir ces switches à la maison, il faudra encore attendre un peu, car c'est en cours de conception. Mais, ceux qui sont à l'Evo au Japan auront la chance de pouvoir les tester, car Ponta, celui qui a développé le design, et d'ailleurs c'est la personne que l'on voit ici en image avec Tokido, eh ben, parcourra les allées de l'Evo Japan pour faire tester tout ça. Et quant à Tokido, eh ben, il fera son tournoi Evo Japan avec ses boutons fixés sur son stick arcade et Hitbox. Donc voilà, un petit peu de lore supplémentaire autour de Tokido. Ça va être stylé de voir ça. Mais voilà, en gros, ces boutons One Frame ont l'air vraiment intéressants. Et voilà, vous frôlez le bouton et c'est le bouton qui s'actionne. Et c'est très très intéressant. Donc moi, personnellement, je les testerai. Vu que je vais aller au Japan demain, je les testerai. Et puis je vous ferai un petit retour jeudi prochain en live, histoire de vous dire si c'est du mytho ou pas cette affaire. Et ouais, quand même. On enchaîne maintenant avec un petit point mercato. Eh oui. Regardez, petite dinguerie, on va pas se mentir, hein, après un passage sur Street Fighter V avec notamment Link Excello, Verdoyance ou même TKR, qui d'ailleurs, hein, rappelons-le, avait remporté une Gfinity et la moula qui va avec. Encore GG, hein, d'ailleurs, hein, messieurs, et quelle époque, voilà. Eh ben, Vitality retente sa chance sur les jeux de combat, et plus précisément sur Tekken 8. Alors, le recrutement du Coréen John Diding, C'est ce qui a fait grand bruit cette semaine sur Internet, a aussi redonné espoir à toute la FGC sur un éventuel retour de l'âge d'or du jeu de combat. Alors évidemment, on peut assez facilement imaginer les motivations de Vitality sur ce choix, à vouloir de nouveau s'investir dans le versus fighting. L'argent coule de plus en plus à flot autour des jeux de combat. On ne va pas non plus faire semblant. Et à titre d'exemple, 2 millions pour Street Fighter VI via la Capcom Cup et le Capcom Pro Tour, 1 million supplémentaire avec le eSport World Cup, on a le cash prize du Tekken World Tour, les millions également, le million pour Tekken sur le eSport World Cup également, et voilà, etc., etc. Donc plus il y a d'argent, et plus ça intéresse les potentiels sponsors, et ça c'est tout à fait normal, hein. D'ailleurs, tant mieux pour les joueurs. Donc ici, c'est Vitality qui se jette une nouvelle fois dans l'eau, et c'est un choix vraiment très très bon, hein. Voilà, John Diding, ce n'est pas n'importe qui, c'est un joueur de talent, anciennement connu lorsqu'il a été sponsorisé sur Ouyou, c'est surtout là où il a fait voilà, la majeure partie de son CV. Et donc, John Diding officie depuis Tekken 7 en jouant Lucky Chloé, ou d'ailleurs beaucoup plus avec Eddie. Il avait aussi fait un petit passage à Street Fighter V non dénué de performance, hein. Il avait réussi à faire pas mal d'upsets avec sa Camille. Et il a dans sa Death Note des joueurs comme Super Akuma, CBM, Rangshu, JCDR ou même Q-Dance. Et il a aussi des titres comme champion du CIO 2018 et 2023, le Versus Fighting 11, le Rêve Major 2022, etc. etc. C'est en gros un habitué des top 8 et des titres. Et c'est vraiment un excellent choix pour Vitality. Maintenant, il faut que les autres équipes suivent et fassent des recrutements choc qui leur permettraient de rêver aussi du million. Hein, je le rappelle, les millions sur Tekken et Street Fighter 6 en 2024. Alors, on va pas passer par quatre chemins. Ça se réveille aussi côté européen en termes de mercato. Regardez-moi ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Hein, voilà, Phenom, Viggy pour Street Fighter et Bilal pour Tekken. Voilà, NIP passe également à l'attaque dans le sponsoring, pardon. Alors, qui est NIP? Eh ben, c'est une équipe e-sport suédoise dont le vrai nom est Ninja in Pyjamas, qui a été créée en 2000 et spécialisée dans Counter-Strike. Alors, son plus grand fait d'armes, c'est la victoire au CPL de 2001 sur Counter-Strike. Et aujourd'hui, ce n'est plus que Counter-Strike, hein, c'est aussi Rainbow Six ou encore League of Legends, et le palmarès de l'équipe est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Alors aujourd'hui, c'est donc du côté de Street Fighter VI que cette écurie tente sa chance, et elle a complètement raison. Voilà, j'en ai profité évidemment pour me moucher. Maintenant qu'on a passé en revue ce petit point matos, on va passer maintenant du côté d'un jeu indé. Regardez ce jeu-là, vous le connaissez, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises dans l'émission, hein. Il s'agit pardon de Sklash. Alors pourquoi je vous parle de Sklash? Parce que le jeu à la le jeu à la Bushido Blade, débarque sur console ce 2 mai. Alors le jeu est développé par les Français de chez Bevel Bakery et édité par Maximum Games. Sklash baigne dans un univers samouraï où les confrontations en un contre un que le jeu propose se finissent en une seule touche. Voilà la spécificité de ce jeu-là. Comme je le disais à la Bushido Blade, les anciens savent de quoi je parle. Alors, un concept justement déjà initié dans le jeu sur PlayStation 1, hein, Bushido Blade, même si parfois, dans Bushido Blade, il fallait plusieurs coups, hein, pour vaincre l'adversaire, parce que Bushido Blade, hein, vous coupiez un bras et vous pouviez encore vous battre. Donc, voilà, c'est un jeu qui coûte vraiment rien, il est dans les moins de 10 euros et qui franchement mérite d'être essayé. Franchement, avec des potes, on s'était tapé des barres sur le jeu. On enchaîne avec Mortal Kombat One qui fait parler de lui cette semaine avec la découverte d'une brutalité secrète. Voilà, on passe du coq à l'âne, hein, de Slash à Mortal Kombat. En gros, pour la réaliser, il suffit d'exécuter une projection arrière tout en pressant la direction haute et le bouton de backpunch. Et voilà. Et du coup, vous aurez une brutality qui sera la même pour tout le monde, secrète. Bon, je vous montre pas d'image parce que j'ai pas envie de me faire DMCA, hein, comme Warner a l'habitude de le faire. Mais voilà, c'était le petit post-it de la semaine. Voilà. On enchaîne avec les mods. Les modes, alors regardez, hein, vous n'allez peut-être pas comprendre grand-chose, mais je vais rapidement vous faire un petit topo. Cela concerne Flycast Dojo. Alors il sera bientôt possible d'avoir un mode spectateur facile à utiliser dans Flycast. C'est le modeur BlueMinder qui indique qu'il sera bientôt possible d'intégrer en tant que spectateur des matchs en utilisant un match code qui sera possible de réutiliser pour obtenir des replays et aussi être posé en tant que spectateur. Bon, alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a encore des joueurs de CVS2 et MVC2 qui jouent avec le rollback netcode et Flycast, tout simplement. Et donc cela leur permettrait de réaliser des tournois en ligne et c'est tout ce qu'on demande. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On continue côté mode avec, voilà, quasiment comme chaque semaine, Marvel vs Capcom 3 et... regardez, Star-Lord débarque dans Marvel vs Capcom 3. Hein, voilà, les modeurs se font méchamment plaisir. C'est assez fou, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, bon, c'est sans fin. Voilà, bon, c'est sans fin. Il faut savoir que Star-Lord, initialement, n'est pas dans Marvel vs Capcom 3. Il est intégré à travers le modeur Dragonfly Dev. Et en fin de trailer, là, il a fait un petit trailer. Eh ben, il annonce également la couleur, comme quoi, eh bien, Drax également est en cours pour intégrer via les modes Marvel vs Capcom 3. Voilà, c'est du grand n'importe quoi et c'est trop stylé, on va pas se mentir. Trop, trop, trop stylé. Allez, maintenant on enchaîne avec rapidement Tekken 8. Tekken 8 qui continue à être un peu dans la mouise, hein, on va pas se mentir. Regardez, bon, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais actuellement la situation s'empire pour Tekken 8 sur Steam, qui voit désormais ses dernières évaluations passer à plutôt négatives. Dernière remarque, hein, en date de la part de la communauté, le mode de jeu en ligne classé a du mal à trouver des joueurs de même rang. Voilà. Ou sinon, au pire du pire, vous propose toujours les mêmes joueurs. Bon, personnellement, ça me rappelle un autre jeu de combat en 2D. Mais voilà. C'est tout. Mais bon, cela n'empêche pas, Bandai Namco de continuer à sévir hein, pour bannir les comptes qui posent problème. La preuve en est ici avec le tweet officiel du compte Twitter Tekken qui balance voilà des informations plutôt intéressantes. Donc, à partir du 25 avril, sont bannis les comptes qui sont impliqués dans des activités douteuses sur Tekken 8, c'est-à-dire les déconnexions volontaires, le cheating. Les customisations de perso, les messages de chat et noms de joueurs inappropriés, et aussi, surprenant, ne rien faire dans les matchs en ligne, hein, rester idle, ne pas toucher la manette. Effectivement, ça peut servir pour farmer de l'argent ou même grind gratos le niveau classé pour notamment des joueurs qui peuvent avoir plusieurs comptes, voire plusieurs consoles, vu que voilà, ça peut profiter du cross-platform. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, on ne peut pas l'enlever hein, à Bandai Namco, cette envie, son sérieux au sujet des bans, afin de proposer à ses clients, car oui, hein, les joueurs sont également des clients, un environnement beaucoup plus serein en jeu. Voilà pour Tekken 8. Rapidement, petite parenthèse aussi pour Street Fighter 6. Alors, vous voyez, hein, ici. On a le site eSports Awards qui parle un peu de Street Fighter. Et oui, donc eh bien, le eSports Play of the Month a été lancé ce mois-ci et les votes à disposition de la populace. Et regardez, eh bien, parmi les joueurs pour lesquels on peut voter, eh bien, il y a Big Bird qui fait partie eh bien, des joueurs du eSports Play of the Month du site eSports Award, donc voilà, tout simplement, hein, Big Bird, joueur de Marissa. Alors, fait intéressant, hein, lorsque vous allez aller sur le compte Twitter de ce site-là, parce que voilà, ils font leur communication en majeure partie sur Twitter, même à 99,9%, et ben voilà, ils mettent en avant un comeback de Big Bird avec Marissa. Et ce qui est assez drôle, c'est que Big Bird met en avant cela en disant, bah, en fait, pour nous, les joueurs de Marissa, c'est un comeback tout à fait normal, c'est la vie de tous les jours lorsqu'on joue à Street 6, alors que pour eSports Awards, c'est un truc de dingue. Voilà, donc si vous avez la possibilité de voter pour moi, hein, je cite toujours, ben allez-y, hein, je suis dispo, hein, votez pour moi pour être le meilleur joueur de comeback actuellement sur le site eSports Awards. Voilà, c'était plutôt drôle, hein, Petite dinguerie comme ça, pourquoi pas. Allez, on continue avec Dragon Ball Fighter cette fois-ci. Dragon Ball Fighter qui est sorti, enfin, les développeurs, Bandai Namco, qui sont sortis de leur taverne pour communiquer. Voilà, ça y est, hein, un nouveau patch note pour Dragon Ball Fighter. Je vous explique rapidement la chose. Bandai Namco a Shadow Drop le 18 et le 19 avril le patch. En fonction de votre créneau horaire et de votre plateforme, le patch 1.36 qui sert à corriger tous les bugs connus et liés au rollback netcode, notamment pour le mode spectateur. Alors, patch maintenant appliqué pour toutes les versions du jeu ayant le rollback, c'est-à-dire PS5, Xbox Series et Steam. Alors, on aurait pu kiffer, mais cela a apparemment amené d'autres petits bugs, ou oublié surtout de corriger certaines choses, comme par exemple le bug des trois mêmes persos jouables. Ou aussi le bug qui fait planter la version Xbox sans raison. Ah, et aussi, pardon, beaucoup de joueurs se plaignent de ne pas pouvoir jouer avec des manettes PS4 sur PS5. Eh, ça fait mal au cœur. Donc voilà, il y a encore un peu de taf, j'avoue, mais à trop prendre son temps et ne pas communiquer, et de fait régulier, ça amène les joueurs à quitter de plus en plus le navire pour aller, par exemple, vers des points de fer, des combattants de rue, des chasseurs-chasseurs, voire des two times knockdown. Voilà, bon, j'ai pas trouvé mieux pour le dernier, mais GG à vous si vous avez deviné. On continue maintenant avec, segment Fatal Fury, voilà, le site officiel nous propose un guide pour se préparer à tester le jeu qui sera présent à l'Evo Japan. Alors, pour info, le jeu sera jouable à l'Evo Japan. Donc voilà, il était normal pour l'éditeur de préparer les joueurs à venir squatter le stand SNK. Ce guide dispo sur le site officiel, comme je le disais, explique également le système Rêve, avec plus de détails que précédemment. Ces détails hein, récupérés via les vidéos des influenceurs et qui avaient pu, voilà, ces influenceurs qui avaient pu jouer au jeu en avance durant les finales SNK World Championship. Mais bon, en vrai, les influenceurs avaient fait leur taf parce que, voilà, hormis quelques petits détails, on a eu vraiment toutes les informations qu'il fallait. Bon, après, en termes de détails supplémentaires ou d'explications vraiment confirmées, par exemple, être en surchauffe, c'est-à-dire overheat, empêche d'exécuter des actions utilisant la mécanique rêve et fait en sorte d'être beaucoup plus vulnérable aux gardes crush. Ça, on l'avait vu et c'est vraiment confirmé et on le savait. Aussi, les mécaniques défensives Just Defend et Hyper Defense offrent de la récupération de vie. Donc, c'est vraiment les deux qui donnent de la récupération de vie et aussi de la réduction de jauge rêve et des gardes cancel lorsque ils sont bien exécutés. Aussi, le guide montre des différences entre le mode manipulation arcade et le mode simplifié, plus spécifiquement quelles actions sont attribuées à quelles touches. Et on découvre aussi que les mécaniques de feinte et breaking ne sont accessibles, attention, qu'avec le mode de manipulation arcade. Voilà. Donc, ok, il y a des manips simplifiées, mais on n'aura pas accès à tout le gameplay du jeu. Alors, la liste de coups des personnages est également disponible dans ce guide. Hein, voilà, il s'agit des personnages jouables dans la démo. Et on découvre également que voilà, SNK a fait exprès de ne pas montrer certaines manips de coups spéciaux, histoire de, voilà, de nous ramener dans les années 90 et essayer de découvrir comment réaliser les coups spéciaux et faire un peu parler du jeu. On continue SNK avec le SNK World Championship. Voilà, bon, mauvaise et bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura bien un SNK World Championship. La mauvaise, ce sera en 2025. En tout cas, voilà, l'édition 2025 du SNK World Championship est déjà prête. C'est SNK qui le dit. Pas de 2024, mais on a une autre information. Le champion de l'Evo Japan 2024 aura sa place dans ce championnat. L'info provient donc d'un tweet de l'éditeur qui ne mentionne pas une invitation finale, juste au championnat 2025. Donc ça reste encore trouble, assez flou. On n'a pas toutes les informations, c'est un peu chelou. Mais voilà. Évidemment, l'éditeur nous dit qu'on aura plus d'infos tout très bientôt. On va se contenter de patienter et voir ce que l'éditeur veut dire par championnat, pas finale. Bref, c'est très très flou comme voilà. Souvenez-vous, hein, je m'étais déjà fait banane par l'éditeur lors de leur communication. Donc voilà. Là maintenant, je reste sur mes gardes, je mets la garde au max. Et on attend de voir l'intégralité des infos. Mais voilà, donc en soi, c'est une chose qui aurait pu ne pas être très grave si les joueurs de KOF 15 n'attendaient pas un patch de rééquilibrage. Oui, car oui, maintenant on sait que Fatal Fury sort en 2025, les joueurs de KOF ont les crocs et réclament depuis un moment un rééquilibrage pour KOF 15, alors que l'éditeur reste muet à ce sujet. Donc ici, là, aujourd'hui, double peine pour les joueurs de KOF, attendre Fatal Fury et attendre un rééquilibrage pour KOF. Donc, bah, messieurs et mesdames, courage, 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 hein, c'est tout ce que je peux vous dire. On continue, allez hop, avec Two Times Knockdown, avec 2XKO, 2XKO qui nous a régalé cette semaine. Alors, est-ce que je peux vous mettre la vidéo en meilleure qualité? Parce que là, elle est en 480p et j'ai envie de canner. Hop là, allez là, au moins je vous la mets en 720p, parce que je suis avec le Wi-Fi de l'hôtel. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Eh bien, après un premier indice, hein, la semaine dernière, avec notamment l'annonce que le personnage Illaoi serait jouable, eh ben, on n'attendait plus que son trailer de présentation. Hein, voilà, hein, tout simplement. Et c'est chose faite aujourd'hui. Alors, les premières choses que l'on peut noter à travers le trailer, eh ben, il s'agit d'un vrai trailer de perso. Hein, ça y est, hein, le premier, à vrai dire. Alors qu'avant, c'était plutôt des petits bouts de personnages à travers un trailer pour annoncer 2XKO en soi, là, pour annoncer le nom du jeu. Aussi, on découvre dans ce trailer, eh bien, les dégâts que Illaoi fait, et c'est plutôt, ça fait plutôt flipper. On découvre aussi qu'elle a un overhead, qu'elle a une projection aérienne et la présence de framekill pour les setups. Voilà, donc il y a bien des framekills dans le jeu et ça fait plaisir. Ça montre encore une nouvelle fois que c'est bien des joueurs qui sont derrière ce jeu de combat. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde qui a pu tester le jeu. Il y a eu notamment Majin Obama qui a pu tester le jeu. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube pour eh bien, découvrir plusieurs minutes de gameplay. Nemo aussi a longuement joué au jeu. Mais là, à travers cette vidéo, eh ben, les développeurs ont également partagé des informations sur Illaoi. Alors, des explications provenant plus précisément d'une des designers de personnages. Et voici ce que l'on apprend. Alors, déjà pour commencer, les tentacules peuvent servir comme Zato dans Guilty Gear. On peut les invoquer à distance ou pendant les attaques. L'idée est que les tentacules ne jouent pas à la place du joueur. Pour preuve, toucher une tentacule la fait disparaître. Mais jouer sans tentacule eh ben, fait perdre à Illaoi l'accès à de grosses options de neutral. Et oui, ce qui veut dire que ben, elle doit prendre plus de risques ou se servir des assists pour trouver le corps à corps. On peut aussi placer une tentacule via une attaque pour ensuite enchaîner avec une super. Cette situation fera pop la tentacule au bon endroit à la fin de l'animation de la super afin de continuer son offensive, c'est-à-dire eh bien, attaque qui fait pop en gros la tentacule pile poil au corps à corps et non à sa position initiale loin derrière là où à la base elle avait été lancée. Qu'est-ce qu'on a d'autre également dans mes notes? Eh bien la super S2, c'est carrément deux grosses tentacules qui spamment à leur rythme des coups à l'adversaire. Donc si Aloy est touché, par contre, les tentacules disparaissent. Alors, les mécaniques d'assist avec Illaoi sont plutôt intéressantes. Par exemple, lorsque vous faites la direction arrière plus la touche assist, eh ben, c'est une attaque à distance, similaire à son attaque spéciale S1. Et s'il y a déjà une tentacule en place, eh ben, elle fera automatiquement un follow-up. La direction avant plus assist eh ben, est un coup similaire au spécial S2. Et en soi, selon la designer, l'assist est très bon pour contrôler le jeu à mi-distance, mais faire un handshake tout de suite après son assist permet à Illaoi de continuer à attaquer avec les tentacules qu'elle a tout juste créées. Alors, hors de l'écran, Illaoi est un soutien offensif. Hein, voilà, c'est la développeur, enfin la designer qui le dit. Et le gros point fort de Illaoi, et le jeu dans les cordes, mais selon la dev, il est risqué d'y emmener l'adversaire seul. Donc il faut vraiment se souvenir de ça pour optimiser au max la synergie. Il faut donc, eh bien, selon ses conseils, un personnage avec un neutral fort et une très bonne mobilité qui peut permettre à Illaoi d'engager le combat. Voilà, concernant 2XKO pour ce trailer. D'ailleurs, je suis un peu désolé, je vois que la vidéo saccade un peu, ça vient pas de chez vous, ça vient de chez moi, voilà, hein, je suis désolé. Alors, ça ne s'arrête pas là. Rapidement, qu'est-ce que l'on peut également découvrir? Eh ben, un guide pour les débutants, voilà, un guide pour les débutants grâce à la communauté, et ça c'est justement trop 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 stylé. Regardez, c'est l'utilisateur SpiderAXE30, connu pour notamment partager du contenu sur 2XKO, qui a créé tout récemment un visuel servant de guide pour les débutants. On y voit les combos pour débutants, la disposition des boutons, la description des mécaniques de tag et les champions jusque-là officiellement présentés. Aussi, ben, il y avait beaucoup de personnes hein, qui se disaient, mais pourquoi il a mis uniquement le hitbox? Pas d'inquiétude, voilà. Il y a également la même avec un stick arcade, pas de grande différence, mais voilà. Si ça peut faire plaisir à la populace, let's go. Aussi, Sean Rivera, lui de son côté, nous a donné une petite information à travers les réponses de tweets, etc. Et le jeu proposera également des taunts avant match, un peu à la Street Fighter 6, grâce à la touche R3 et une direction. Voilà. Donc, on se met à la page d'XKO qui veut faire comme Street Fighter 6. Et on le sait, hein, c'est quelque chose qui est plutôt marrant en ligne. Donc, il n'y a pas grand intérêt. Mais voilà, c'est histoire de dire que voilà, on peut avoir des interactions avant match avec son adversaire. C'est mignon. Voilà, disons que c'est mignon. Aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a eu des. À travers les trailers, donc là on va rester avec cette scène-là principale, rapidement une petite information. Entre les trailers et les vidéos de l'année dernière, la communauté a remarqué pas mal de changements. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cooldown était plutôt long avec le 2X Assist. Et là, eh ben, il semblerait que ça ait changé et que le cooldown ait été réduit, si on se base sur bien sûr les vidéos de trailer. Donc, ce qui va permettre à donner beaucoup plus de potentiel d'attaque. Et ça, la communauté est plutôt contente à ce sujet-là. Et aussi, Harry, par exemple, eh bien, stocke désormais une orbe, par charge. Voilà pour quelques-uns des changements aperçus. Rappelons-le, le jeu aura le droit à son stand à l'Evo, avec notamment Illaoi jouable dans une version du jeu ayant reçu, comme je l'avais dit la semaine dernière, quelques modifications depuis l'année dernière, autant visuelles que dans les manips. Et il y aura en gros dans cette démo 3 stages, 5 persos, une traduction japonaise parce que voilà, c'est l'Evo Japan, des animations de champions mises à jour, c'est officiel, hein, attention, le user interface, les indicateurs visuels pour la barre de vie, la jauge de super, les effets de statut et autres mis également à jour. Et bon, là on est plutôt sur un édito, mais comme la commu l'a fait remarquer, le jeu de XKO est marketé comme étant un Marvel versus Capcom, ça tout le monde le dit, etc. Mais plus il y a de vidéos, notamment avec celle d'Illaoi, et plus il y a cette impression d'avoir un jeu de type BlazBlue Cross Tag Battle saupoudré de mécaniques de mécaniques à la Marvel. J'entends ici autant un Marvel 3 qu'un Marvel Infinite. Alors peut-être qu'au final les joueurs vont se rendre compte que BlazBlue Cross Tag Battle est finalement pas mal, même si des joueurs comme Super Noon comparent ce 2XKO, attention, à un Power Ranger Battle of the Grid. Ouais, je vous jure, c'est vrai. Vous pouvez aller vérifier sur son compte Twitter, le mec est archi sérieux. Bon, en attendant que je vous teste tout ça ce week-end, et vous savez, eh ben, vous savez à quoi jouer à la maison, hein, pour avoir une idée du jeu, jouer à BlazBlue Cross Tag Battle et Power Ranger Battle of the Grid. Voilà, c'est là. C'est les joueurs qui le disent. Voilà. Et enfin, entre personnes impliquées dans le développement, ça tease quelques petits trucs. Voilà, ça tease. C'est plutôt marrant, hein, mais ça tease des personnages Turtle, des campeurs. Si, en gros, hein, voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre la traduction. Et donc, bon, bah, c'était lors de réponses, d'intervention. Donc là, Sean Rivera qui réagit aux vidéos de Nemo, qui dit j'adore voir Nemo et Nagakaburos jouer façon camping, etc. Et derrière, bah, t'as Ben Forbes hein, qui lui derrière, c'est l'éditeur en chef de XKO, qui dit Campeur, mettez donc cette tortue dragon dans 2XKO. Oui, évidemment, je donne également la description vidéo pour ceux qui n'ont pas la vidéo et qui nous écoutent en podcast. Et derrière, Shoney Rivera qui nous dit 2X, ok, et non pas 2X KO. Regardez, hein, j'ai même liké, c'est pour dire. Donc, il faut savoir que je vous laisserai regarder un peu le lore autour de cette image-là. C'est un lore assez particulier. C'est à la limite du même, mais quand même, ça reste assez intéressant. Et effectivement, hein, on n'a jusqu'à maintenant pas eu vraiment de personnages de camp présentés dans 2XKO. Donc voilà, ça ne devrait tarder tout simplement. Allez, on va terminer cette émission avec le segment que vous attendiez tous. Et oui, le segment. Alors, bougez pas, il faut que je mette mon oreillette parce qu'il faut que je vous mette également un petit audio. Le segment, attention. Hunter, Hunter, oui, on dit Hunter, Hunter ici. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est notamment Goichi qui appelle ça Hunter, Hunter. Regardez. Allez, je vous le remets pour le plaisir.
Hunter, Hunter,
voilà, allez, ça c'est réglé. Donc voilà, Goichi, Eita et Fenrichi qui ont dosé Hunter Hunter, voilà, et pas que, hein, on a eu aussi d'autres personnes hein, qui ont pu doser le jeu. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh ben, pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Par quoi commencer? Franchement, par quoi commencer. C'est assez dingue. Bah si, si ce n'est que dire que pour un premier aperçu, c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors déjà, oui, c'est un jeu en 2D par équipe de 3, c'est confirmé à la Marvel versus Capcom. Donc vous pouvez changer à tout moment de personnage en plein combat. Voilà. Et selon le test de la démo réalisé par le site GodzLine, alors je m'épose cette vidéo-là et hop, ce site-là, GodzLine, qui a pu tester le jeu et nous faire une petite review, eh ben on apprend des choses vraiment intéressantes autour de Hunter Hunter. Alors, on commence simplement par cette information-là, le jeu n'oubliera pas les débutants. Voilà, l'objectif étant de faire un jeu convivial non seulement pour les fans, mais aussi pour les débutants et ceux qui n'y connaissent rien en jeu de combat. Voilà, alors par cela, il faut comprendre que les manipulations et combos basiques seront encore plus simples que ceux de Dragon Ball Fighters. Voilà, hein, c'est comme ça. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors, je vous explique. Par exemple, exécuter un coup spécial est encore plus simple que prévu. Il suffit de presser une direction, oui, une seule direction et le bouton d'attaque spécial comme Dragon Ball Fighters, mais en beaucoup plus simple. Et pour les super attaques, eh ben, une direction, la touche attaque, enfin la touche attaque spéciale, pardonnez-moi, et la touche nommée, attention, Impact Nen. Car oui, il y a aussi une touche qui s'appelle Impact Nen. Ok, why not? Pourquoi pas? Ça, j'ai pas de problème. Ok, très bien. Alors, qu'en est-il des manipulations? Eh ben, ce sera un jeu à la 2XKO. Voilà, aucun quart de cercle ne sera dans le jeu pour faire ses coups spéciaux. Et il n'y aura pas de mode moderne, classique, spécial, etc. Juste pas de cercle, basta. Tout le monde joue en mode simplifié. Et le jeu sera doté d'un bouton intitulé Rush qui permet d'effectuer facilement de longs enchaînements. Et en pressant simplement le bouton Rush avec un bouton de coup fort, moyen ou faible, eh ben, le boulot sera fait à votre place, où que vous soyez et qui que vous jouiez. Voilà. Et cerise sur le gâteau, que vous vous preniez la tête à faire des combos manuels ou avec l'aide du bouton Rush, les dégâts seront exactement les mêmes dans cette démo. Voilà, ça changera peut-être avec le temps, hein, mais bon, restons-en à ce que la démo propose. Autre spécificité, chaque combattant possède un coup armor. Alors, je vais pas non plus mettre toute la vidéo, d'une parce que ça rame un petit peu, et deux, j'ai pas envie de me faire DMCA. Il se peut qu'il y ait des whitelists hein, pour Hunter Hunter, vu que c'est vraiment trié sur le volet pour l'exclusivité. Donc, prenons pas de risques. Restons vraiment avec cette scène-là. Je continue un peu à vous raconter ma vie. Donc, j'en étais où moi? Donc oui, le jeu est doté d'un bouton intitulé Rush qui permet d'effectuer facilement de longs enchaînements. Et donc la cerise sur le gâteau, c'est que vous preniez la tête ou non, avec le bouton Rush ou faire les combos façon manuelle à l'ancienne, eh ben, les dégâts sont exactement les mêmes, du moins dans cette démo. Ça c'est dingue, ça c'est dingue si ça reste définitif. Après, je sais qu'il y a des exemples Par exemple, Granblue Fantasy versus Rising n'a aucune différence de dégâts que vous soyez avec la manip simple ou normale. Donc, si on part sur cette philosophie, il est fort probable que ça reste tel quel. Autre spécificité, chaque combattant possède un coup armor. Tous les combattants hein, possèdent un coup armor. Un coup armor sur les coups haut et mid. Pour l'exécuter, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur la touche X, voilà, de la PlayStation, parce que tout le monde a testé la version PlayStation. De plus, ce coup armor a quelques facilités pour servir d'anti-saut. Puis en cas de touche, il sera possible d'exécuter des combos aériens. Donc en gros, vous vous servez de ce coup armor en anti-saut. Si ça touche, vous avez des juggles et c'est la fête du slip. Côté personnages, les 6 aperçus dans le premier teaser seront bel et bien jouables à l'Evo Japan, c'est-à-dire Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka et Netero. Alors, cet article-là, celui-ci, par contre celui-ci je peux vous le montrer, ça, il n'y a pas de souci. Hop, cet article nous donne vraiment un torrent d'informations. Hein. C'est vraiment super intéressant et d'ailleurs encore trop stylé. Mais la description va jusqu'aux archétypes des personnages jouables. Et voici en gros, hein, en une phrase, ce qu'il faut retenir pour chacun d'entre eux. Gon fait mal et a un aspect technique dans son gameplay. Killua est le personnage axé sur la rapidité. Leorio est celui qui tient à distance. Karapika est le personnage qui joue à très longue portée avec des compétences limitées dans le temps à appliquer sur ses attaques. Hisoka est le perso spécialisé projectile et pose des dots à l'adversaire. Et Netero est le personnage de corps à corps et mi-distance. Voilà. Autre information concernant cette démo-là, vous l'avez peut-être remarqué ici hein, en image, il y a l'Overgear. Alors, qu'est-ce que l'Overgear? Ben, cette mécanique, et c'est ce qui. Est-ce, oula, je vais y arriver, pardonnez-moi. Et c'est ce qui. Est-ce, Et c'est ce qui s'apparente, voilà, au X-Factor de Marvel vs. Capcom 3. Il peut être exécuté qu'une seule fois par match en combo, en l'air, en garde, et augmente, comme le X-Factor, les dégâts d'attaque et la vitesse de déplacement. Voilà. Il y a aussi, et ça, petite subtilité, le Quick Gear, une variante de l'Overgear qui s'active, attention, en sacrifiant de la jauge de récupération, de la vie grise, comme on l'appelle dans le jargon. Donc, vous l'avez compris, vous subissez des dégâts, votre vie est en deux temps. Si vous mettez votre personnage en assist, eh ben, la vie va remonter comme dans Marvel, tout simplement. Alors, les effets du Quick Gear semblent les mêmes qu'un Gear, c'est-à-dire boost de dégâts et de vitesse. Cependant, la durée varie en fonction de la qualité, de la quantité, pardon, de vie sacrifiée. Et donc derrière, bon, ben voilà, vous avez une qualité offensive qui s'exerce dans le temps en fonction de la vie grise utilisée pour utiliser le Quick Gear. C'est-à-dire, ben, derrière, plus de vie grise, ça peut sauver des matchs. Les assists ont trois attaques différentes, comme Marvel. Il y a aussi les Unison Art, cette fameuse technique où plusieurs personnages eh bien, utilisent en même temps leur super attaque en même temps, hein, voilà. Et enfin, il y a aussi les Switch Art, là où un personnage exécute une super art et passe le relais à un autre personnage qui entre en scène avec sa super art. En gros, le DHC à la Marvel. Défensivement, eh bien, pour sûr, il y a l'Advanced Guard de Marvel vs Capcom, hein, qui s'intitule ici le Bounce Guard. Vous encaissez un coup en garde. Je crois que je peux vous le montrer ici en image. Bougez pas, et tout à la fin. Vous allez voir. Donc là, ici, c'est le genre de X-Factor, c'est l'Overgears. Hein, voilà, explosion de ki combatif. Regardez où est-ce qu'il est. Bon, il est peut-être quelque part par là. Ben, voilà, le Bounce Guard, c'est ici. Pile poil juste, parfait. Exactement comme Marvel, hein, pas de mystère. En gros, vous avez la garde, vous mettez une direction plus une touche d'attaque et hop, vous repoussez l'adversaire. Voilà. Bon, de ce que l'on voit dans les vidéos de gameplay, on peut aussi confirmer la présence des OTG. Et en fait, en faisant le bilan, ce jeu ressemble beaucoup à un Marvel dans son rythme. Les possibilités et notamment le pseudo X-Factor. Et bien sûr, il y a des inspirations à la Dragon Ball Fighters, notamment les combos faciles à exécuter, hein. Vous mâchez un seul bouton et ça vous fait des auto-combos. Ici, il faut associer une touche pour activer les auto-combos qui font autant de dégâts. Hein. Ça, je voulais expliquer juste avant. Alors, c'est pas tout, hein, malheureusement, la communauté a un peu grincé des dents côté visuel du jeu. Hein. Ça fait un peu mal visuellement, ça c'est sûr. Peut-être parce que il y a beaucoup de similitudes avec des jeux précédemment faits par 18, comme on peut le voir ici, hein, John Croft, hein, qui nous a fait une petite comparaison en vidéo. C'est exactement le même moteur que Marvel vs Capcom et que Tatsunoko Cross Capcom. Voilà, donc les animations, ce sont des animations de 2010-2011. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti Marvel vs Capcom 3. Voilà. Un peu rigide, hein, on va pas se mentir. Hein, je laisse voir les comparaisons ici. Ça a fait peut-être un peu mal au cœur pour certains, mais voilà ce à quoi il faudra vous attendre. Hein. Beaucoup de personnes, hein, disaient que sur les internets, ouais, le jeu est rigide, etc. Tout ça. Bah, en fait, oui, parce que c'est un jeu qui date de 2011, hein, qui date de l'ère Marvel vs Capcom. Hein, le moteur est exactement le même, donc pas d'embrouille là-dessus, pas de mensonge. En plus, je vous en avais déjà parlé dans des émissions précédentes. Hein, voilà, le budget alloué au développement est assez serré-serré. Hein, voilà, je vous laisserai chercher l'émission dans laquelle on en parle, mais je crois que c'est la toute première émission où on parle de Hunter Hunter. Mais bon, voilà, on en avait déjà parlé, mais ce Hunter Hunter ne bénéficie pas du même budget qu'un Marvel vs Capcom ou Dragon Ball Fighters, et donc la communauté l'avait remarqué, je vous avais prévenu. Bon, par contre, l'histoire nous l'a déjà démontré, les graphismes et les animations ne font pas tout. Hein, pour exemple, cela n'a pas empêché KOF 14 d'être un carton en Asie. Aujourd'hui, vous ajouterez à cette équation les manips simplifiées à la 2XKO et vous avez Hunter Hunter. En 2024, ce n'est plus choquant d'avoir affaire à des manips à la 2XKO. Donc voilà, on est même en pleine transition pour petit à petit faire place aux manips sans quart de cercle. C'est donc en toute logique hein, que 18, le studio qui développe le jeu, prenne de l'avance et prenne également le virage. Hein, c'est tout à leur honneur. Hein, let's go. Et dans le cas d'Hunter Hunter, franchement, si les fans y trouvent leur compte, eh ben c'est banco, hein. En tout cas, on croise les doigts pour eux. Mais sachez que des joueurs comme Justin Wong, hein, voilà, ont pu tester le jeu plusieurs heures et les retours sont positifs, hein. Après, maintenant, est-ce que c'est le sentiment de nouveauté qui parle? Aucune idée, hein. Mais allez, petite piqûre de rappel. Parce que son enthousiasme était le même avec Power Ranger Battle of the Grid. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Finalement, rien de mieux que l'ensemble des joueurs pour donner leur propre avis. Voilà. Et tout simplement. Donc, hâte que les joueurs puissent tester le jeu et se donner un avis final. Parce que c'est vrai qu'en vidéo, c'est toujours particulier. Mais voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré Goichi qui, sur YouTube, a posté une vidéo de 13 minutes dans laquelle eh bien, il teste en avant-première le jeu. Vous trouvez également des sections de gameplay, des séquences de gameplay sur Twitter, pardonnez-moi. Donc voilà, moi, intentionnellement, je ne vous montre pas des vidéos de gameplay ici en vidéo par peur de me faire DMCA. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un, comme je vous le disais, d'un waitlist. Donc d'une exclusivité, d'une autorisation exclusive pour certaines chaînes pour diffuser le gameplay. Donc voilà, je vais pas faire le dingue. Peut-être qu'il y a d'autres chaînes YouTube hein, qui ont réussi à voler les vidéos et à les mettre sur leur propre chaîne YouTube. C'est leur problème. Mais tant qu'il n'y a pas de trailer officiel et d'annonce officielle de la part de l'éditeur, moi je tiens à faire gaffe. Il n'y a pas à me taper un vieux strike qui me foutra le seum. Voilà concernant Hunter Hunter et voilà concernant l'émission. Alors, avant de se quitter, petite piqûre de rappel de ce week-end, c'est l'Evo Japan. Et comme je vous l'ai dit, hein, voilà, il y a MGG qui va retransmettre en direct à partir de samedi 2h30 eh ben, l'Evo Japan. Alors attention, ne vous faites pas banane. Cette année, l'Evo Japan, c'est le samedi, dimanche et lundi pour les finales. Et donc, eh bien, à travers ce live spécial, eh ben, voilà, Ken Bogard sera accompagné de Genius, Foster, Cell, Reza et TPK. Donc, bon, bah, si vous voulez une trad française et une ambiance française de l'Evo Japan, let's go. Allez donc du côté de Ken Bogard, car ça va être retweet, ça va être restream à la fois sur la chaîne MGG et Ken Bogard, si je dis pas de bêtises. Donc let's go. Allez-y, hein, franchement, quoi de mieux que de regarder ça en communauté. Voilà concernant l'émission de cette semaine. Hein, et puis désolé hein, pour cette émission. Enfin voilà, j'ai le nez qui coule, j'ai la voix un peu cassée, je parle pas très fort, mais voilà, j'ai fait mon taf. Merci à toutes et à tous d'avoir eh bien regardé cette émission. Nous, on se retrouve jeudi en live à 19h15 sur ma chaîne Twitch pour l'actu. Et puis voilà, hein, je vais pas non plus trop vous prendre de votre temps. Ça fait précisément 54 minutes que l'émission. Bah non, il n'y a pas de prédiction. Qu'est-ce que je vous raconte? C'est plus votre problème. Les prédictions, c'est la semaine prochaine. Donc du coup, rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous à vous, prenez soin de vous, dosez, dosez. Et la semaine prochaine, je vous fais un retour sur Fatal Fury, sur Hunter Hunter, et sur tous les jeux qu'il y a là-bas, de XKO, tout ça, tout ça, tout ça. Let's go, let's go, let's go. Et des bisous à vous. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. C'est fini pour moi aujourd'hui. Je suis en PLS. Allez, bisous. Ciao!